OK, on va continuer notre étude sur la dépression. On était rendu aux remèdes. Alors, la semaine dernière, on avait commencé à regarder les différents remèdes que les spécialistes du sujet recommandent. Alors, le premier remède qu'ils recommandent, c'est de corriger son style de vie. On avait vu que les personnes qui sont dans la dépression, qui sortent de la dépression, ont besoin de rétablir une routine de vie dans leur vie, parce que souvent, c'est la première chose qui se passe, ils dorment à des heures irrégulières, ils dorment le jour, leurs habitudes sont un peu chamboulées. Alors, la première chose qu'on considère qu'ils devraient faire, que les spécialistes leur recommandent de faire, c'est de retrouver une routine de vie qu'ils avaient bien souvent avant que la dépression arrive. On avait parlé aussi de la relaxation. Le Seigneur lui-même l'a fait avec ses apôtres, avec ses disciples lorsqu'il est venu sur la terre. Il arrivait des moments où les disciples étaient fatigués, puis il leur disait de se retirer à l'écart, de prendre un moment pour se relaxer. La relaxation, c'est, je dirais, pour une personne qui est déprimée, c'est une chose à réapprendre. On avait parlé aussi de la nécessité de réapprendre à respirer. Souvent, les gens ont des difficultés à ce niveau-là. On avait vu aussi qu'ils se doivent d'essayer de rétablir des habitudes de récréation dans leur vie et de repos également. Et parmi le premier remède, on avait vu aussi la nécessité de mettre de l'ordre dans ses priorités. Parce que quand tu veux, qu'on avait vu que le Seigneur avait dit veux-tu être guéri? Alors, pour une personne qui est dans la dépression, souvent aussi, c'est la première question à poser. Veux-tu t'en sortir? Alors, quand quelqu'un est déjà décidé à s'en sortir, à poser les gestes qu'on lui recommande de poser, c'est pas nécessaire. Il n'y a rien de facile. Les gens ne s'en tirent pas jour au lendemain. C'est une affaire souvent de longue haleine. Mais parfois, pas si long que ça. Alors, mettre de l'ordre dans tes priorités, ça veut dire que si tu te rends compte que tu avais un style de vie qui était débalancé, tu travailles trop, ou tu sais, toutes sortes de choses comme ça. Il faut que tu rétablisses tes priorités. Si tu avais oublié Dieu dans l'équation, il faut que tu le remettes dans l'équation. Alors, rétablir tes priorités. Le deuxième remède, on avait vu que c'était corriger ses fausses pensées. On avait vu une leçon complète là-dessus, 10 façons des fausses façons de penser que souvent les gens déprimés adoptent et qu'ils ont besoin au moment qu'ils veulent s'en sortir de corriger ces choses-là. On avait vu aussi que quand le psaume 77, on l'avait lu au complet la semaine dernière, on va le relire, puis après ça, on va voir comment, parce que c'est Asaph, là, dans le contexte, c'est Asaph, et on voit que il exprime avec tout son cœur ce qu'il vit. Et on voit qu'il y a certaines étapes dans sa pensée qui vont le ramener à une vie plus normale. Alors, on reprend le psaume 110, le psaume 117 parce que quand on veut regarder comment quelqu'un doit s'y prendre pour examiner sa vie de pensée, on va voir que, dans le fond, le psaume donne ce que les psychologues recommandent, le psaume, Asaph, il fait. Alors, on va voir cela, comment il fait ça. Alors, on va reprendre le psaume 117. Au maître chante de Jéduthunite, psaume d'Asaph. Ma voix s'adresse à toi, je crie. Ma voix s'adresse à Dieu, et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, j'ai cherché le Seigneur. La nuit, ma main était étendue vers lui et il ne se lassait point. Mon âme refusait d'être consolée. Je me souvenais de Dieu et je gémissais. Je méditais et mon esprit était abattu. Tu avais retenu mes yeux dans les veilles, j'étais troublé, je ne pouvais parler. Je pensais aux jours d'autrefois, aux années des temps passés. Je me rappelais mes mélodies de la nuit. Je méditais en mon cœur et mon esprit examinait. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus désormais propice? Sa bonté a-t-elle cessé pour toujours? Sa parole a-t-elle pris fin pour tous les âges? Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié? A-t-il, dans sa colère, fermé ses compassions? Et j'ai dit, voilà ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut a changé. Je me rappellerai des exploits de l'Éternel, me souvenant de tes merveilles d'autrefois. Je méditerai sur toutes tes œuvres et je considérerai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel autre Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des merveilles, tu fais connaître ta force parmi les peuples. Par ton bras, tu rachetas ton peuple, les enfants de Jacob et de Joseph. Les eaux te virent, ô Dieu, les eaux te virent, elles tremblèrent, et même les abîmes s'émurent. Les nues se répandirent en eau, les nuages tonnèrent, tes traits aussi volèrent çà et là. Ton tonnerre gronda dans le tourbillon, les éclairs brillèrent sur le monde, la terre s'émut et trembla. Tu as fait ton chemin dans la mer, tes sentiers dans les grandes eaux, et tes traces n'ont point été connues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le processus que eux suggèrent, et on va voir que, dans le fond, Asaph a fait ce processus-là. On avait parlé de regarder, examiner ta vie de pensée. La première chose qu'on avait vue quand on avait fait cette leçon-là, c'était de regarder la situation générale dans ta vie. Par exemple, les gens qui sont dans ta vie, les événements de ta vie, il faut que tu fasses comme un survol dans l'ensemble des circonstances qui sont dans ta vie. Alors, quand on regarde les détails de la situation de la vie d'Asaph, dans le psaume 117, il parle de détresse. Il parle du temps où ce que son âme refusait d'être consolée. Ça veut dire que ça allait pas bien son affaire. Alors, c'est vraiment une description générale et délibérée qui ressemble à plusieurs situations de la vie où notre âme vit l'équivalent. Donc, il examine ses pensées. La première chose qu'il regarde, si on pourrait y aller en détail, à regarder les versets, c'est de voir qu'il regarde l'ensemble de la situation de sa vie. La deuxième chose à examiner, c'est nos sentiments. En québécois, on appelle ça nos feelings. On a des feelings. Alors, eux, ce qu'ils considèrent qu'on se devrait faire quand on sort d'une dépression, c'est de résumer nos sentiments qu'on ressent en un mot. Un mot, si possible. Autrement dit, tu files comment là? Tu files-tu triste? Tu files-tu découragé? Essayer de trouver un mot qui décrit exactement ce que tu vis dans le moment présent. Alors, ça peut être la tristesse, ça peut être la préoccupation, tu es préoccupé par plein de choses. Ça peut être la culpabilité aussi, tu files coupable à cause de telle et telle et telle affaire. Ça peut être la colère, tu es en colère, ça peut être contre ton mari, ça peut être même contre Dieu. Ça peut être la honte aussi, parce que si c'est rattaché à une forme ou à une autre de péché, ça peut être de la honte. Ça peut être de l'irritation. Ça peut être de la déception. Ça peut être de l'humiliation. Ça peut être de l'insécurité ou ça peut être de l'anxiété. Mais à quelque part, quand quelqu'un vit un moment comme ça, puis tu lui demandes, serais-tu capable de me résumer comment tu te sens avec un mot? Dans le fond, le mot est très chargé des fois quand tu dis « je suis en colère ». Puis là, si tu dirais « tu es en colère, pourquoi ?» Là, s'il commence à énumérer, des fois, ça peut être très long. Alors, c'est intéressant de faire ça parce que ça leur fait voir un petit peu où ils sont rendus, c'est quoi qui les préoccupe vraiment au point de vue des émotions. Alors, quand on regarde les exemples dans Asaph, les différents endroits où lui, il parle comment il file, comme autrement dit, en québécois. Là. Il dit, dans le verset 2, 3 et 4, qu'il file troublé. Après ça, il dit qu'il est inconsolable. Inconsolable, ça veut dire que même si quelqu'un vient te voir et te dit « Oh, voyons, fais-toi-en pas, ça va se repasser. » Tu veux rien entendre. Tu veux même pas l'entendre, ce qu'il veut te dire. Inconsolable, dans le verset 2. Submergé. Quand on dit « je me sens écrasé », submergé, c'est ça que ça veut dire, tu te sens écrasé. Lui, il dit aussi qu'il a coupé les contacts avec Dieu. À quelque part, dans le verset 7, il parle des contacts avec Dieu qui sont moins intéressants qu'avant. Le pessimisme, verset 7, l'insécurité, verset 2, et la peur, dans le verset 2 également. Alors lui-même, Asaph, il identifie exactement les feelings qu'il ressent au moment où il s'adresse à Dieu pour essayer de sortir de sa situation. Donc, la première chose, c'est d'examiner notre situation générale dans la vie. La deuxième, c'est d'examiner tes sentiments. La troisième, c'est d'examiner tes pensées. À quoi je pense en ce moment de ma vie? Qu'est-ce que je pense de moi-même? Qu'est-ce que je pense des autres? Qu'est-ce que je pense du présent? Et qu'est-ce que je pense de l'avenir? Des questions chargées, ça. Quand tu demandes ça à quelqu'un qui vit une dépression, qu'est-ce que tu penses en ce moment? Souvent, les gens ont vraiment une hésitation à partager ces choses-là. Des fois, c'est tellement intense, c'est tellement. Ils ne veulent pas les partager. Donc, quand tu regardes qu'est-ce qu'on se doit de faire, à quoi je pense en ce moment, qu'est-ce que je pense de moi-même, qu'est-ce que je pense des autres, qu'est-ce que je pense du présent, qu'est-ce que je pense du futur? Demande ça à une personne déprimée, tu vas voir que ça se met à te répondre. Le futur, je n'y crée pas. Le présent, c'est pas vivable, j'ai hâte de mourir. Des genres de choses semblables, vous allez entendre. Alors, quand on fait le parallèle avec ce qu'on a vu dans Asaph, lui, il dit, mon passé était agréable, mais mon présent est terrible. Dans le verset 5. Après ça, il dit, Dieu m'a rejeté. Il sent comme si Dieu l'a abandonné. Puis, je suis convaincu qu'un chrétien qui vit une dépression profonde, qui dure longtemps, vit très certainement ce sentiment-là de se sentir abandonné par le Seigneur. Ça, c'est terrible. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de souffrance beaucoup plus profonde que ça. Tu te sens complètement détaché des hommes, puis tu te sens abandonné par le Seigneur. Quand il regarde le verset 7, pour lui, quand il regarde le futur, son futur est incertain et sombre. Il ne voit pas l'avenir, comme « Ah, ça va bien aller, je vais faire ci, je vais faire ça. » Après ça, dans le verset 8, il dit « Les promesses de Dieu ne tiennent plus. » Puis dans le verset 9, il dit « Dieu a oublié d'exercer sa grâce envers moi. » Quelqu'un qui se fait, disons, 2 ans et demi ou 3 ans, qui vit la dépression, si tu lui parles de grâce, là, il va dire, ouais, Dieu a oublié de l'exercer envers moi, ça c'est sûr. Puis, dans le verset 9, il dit aussi, Dieu a fermé ses miséricordes. Alors, bien entendu, il faut que tu réexamines ta vie de pensée. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Qu'est-ce que tu penses de l'avenir? Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses des autres? Qu'est-ce que tu penses du présent? Qu'est-ce que tu penses de l'avenir? Il faut que tu passes par ces étapes-là. La quatrième, c'est une analyse des faux modèles de pensée. Ça, on a une leçon complète là-dessus. Il y a 10 faux modèles de pensée. Il faut que tu les prennes un par un et tu regardes si dans ta vie, il y a un modèle de pensée qui s'est installé un ou plusieurs. Des fois, il peut y en avoir plus qu'un. Il faut que tu les examines honnêtement, un à un, et bien souvent, pas tout seul. Parce que souvent, une personne déprimée n'a pas la capacité. Il faut qu'il se fasse aider. Ça peut être le pasteur, ça peut être un psychologue, ça peut être un psychiatre, mais quelqu'un pour t'aider à voir clair un peu dans tes pensées. Alors, on avait vu qu'il y en avait 10. Il y avait les faux extrêmes. On ne les reprendra pas un par un, mais quelqu'un peut reculer aux leçons précédentes où j'expliquais qu'est-ce que c'était exactement une par une, toutes ces fausses choses-là. Il y avait les fausses généralisations. Il y avait les faux filtres. Il y avait les fausses transformations, la fausse lecture de la pensée d'autrui, il y avait la fausse prédiction de l'avenir. Ah, ça ne marchera plus jamais, je suis fait, il n'y a plus rien d'intéressant, la vie est finie, ma vie est finie. Quand quelqu'un commence à penser de même, alors les faux raisonnements qui sont basés sur des faux sentiments, les faux je devrais, les fausses responsabilités. Bien entendu, on les passerait rapidement. Si quelqu'un ne prend pas la peine de reculer dans les leçons précédentes, d'aller voir qu'est-ce qu'on veut dire exactement par ces faux patterns de pensée-là, il faut que la personne réexamine sa vie en faisant attention d'avoir quelqu'un autour de lui, avec lui, pour l'aider à voir clair dans ses faux patterns de pensée. Tu sais, quand on prend celle-là, par exemple, la fausse lecture de la pensée d'autrui. Oh, personne qui m'aime. Tu sais, t'es porté aux extrêmes comme ça. Pas personne qui m'aime. Même les enfants ne m'aiment plus. Ouais, t'es rendu, tu penses comme ça. Mais dans le fond, s'il y a quelqu'un pour t'aider à t'en sortir, tu dis, ouais, mais t'as-tu vérifié avec lui si c'est vraiment ça qu'il pense? C'est de ramener les gens à raisonner un peu, tu sais, pour pas. Parce qu'eux autres sont certains qu'il n'y a plus personne qui les aime. Puis souvent, c'est pas le cas du tout, là. Bien au contraire, il y a des gens qui les entourent et qui cherchent à les aider à peu près de toutes les façons possibles. Alors ici, quand on regarde l'analyse que Asaph lui fait dans le psaume 77, lui, il confesse ses torts et il confesse ses fausses pensées. Parce que dans la version d'Arby, il y a un verset qui dit « Ceci est mon infirmité ». Il se rend compte qu'il y a quelque chose dans sa vie de pensée qui n'est pas correct. Alors, ces pensées qui sont distordues incluent, bien entendu, des modèles de fausseté de la pensée mentionnés dans le paragraphe, mon analyse. Alors, si on fait un résumé, il faut que la personne, d'abord, fasse une analyse de la situation de sa vie en général. La deuxième, il faut qu'il regarde ses feelings, ses sentiments. La troisième, c'est sa vie de pensée, les 10 patterns de pensée. Puis, la quatrième, c'était vraiment, c'est ça, l'analyse de ces faux modèles de pensée. Et le cinquième, c'est vraiment son comportement. Alors, le comportement, comment il vit ces choses-là? Alors, quels ont été les impacts des points 1, 2, 3, 4 qu'on vient de voir sur ses relations avec les autres, sa vie de pensée, ses feelings? Quel impact que ça a eu dans ses relations avec les autres? Souvent, c'est quoi? C'est l'isolement. Les personnes qui font des dépressions, ils s'isolent, ils ne veulent plus voir personne. Bien souvent, c'est à peine s'ils peuvent tolérer le conjoint. Puis bien souvent, la chicane pogne aussi. Ils veulent avoir la paix, ils ne veulent pas te déranger, ils veulent pas. On dirait qu'ils veulent s'enfermer dans leur coquille et rester là. Alors, le comportement, est-ce que ces activités ont été arrêtées? Avant, tu faisais ta vaisselle, disons que c'est une femme, ça peut être un homme aussi. Tu faisais ton ménage, tu faisais de la nourriture, tu faisais plein de choses. Puis là, c'est comme, bon, t'es dépressif, tu fais plus rien. Ça ne m'intéresse plus, il n'y a plus rien qui t'intéresse. Alors, les choses qu'on a vues dans les points 1, 2, 3, 4, ça a été quoi l'influence de tout ça sur ton comportement? Est-ce que, aussi, tu as commencé à faire des activités nuisibles depuis? Parce que ça peut arriver. Il y a des personnes, des fois, qui traversent des dépressions, puis au lieu d'y aller avec des moyens positifs, ils vont tomber dans l'alcool. Ils vont tomber dans la drogue, chercher un moyen de sortir de la douleur qu'ils vivent. Alors, est-ce que l'ensemble de ce qu'on vient de voir, des points 1, 2, 3, 4, ça t'a amené à pratiquer des activités qui sont plus nuisibles qu'aidantes? Ça peut arriver aussi. Après ça, est-ce que tu as réduit tes activités vraiment au strict minimum ou bien non, tu es devenu hyperactif? Alors, quand on regarde avec Asaph, lui, il parle de plusieurs choses dans son comportement, avec des mots. Il parle de pleurs au pluriel. N'est-ce pas que les personnes... Moi, je suis en contact avec quelqu'un qui vit ça, là, puis c'est ça qu'ils disent. Ils pleurent continuellement, ça n'arrête pas. Ils pleurent. Après ça, les plaintes, bien entendu, quand tu files de même, à longueur de journée, à longueur de semaine, et quand tu es rendu à longueur d'année, ça fait mal. Alors, quelque part, souvent, tu te plains. Aussi, le manque de sommeil, parce que souvent, les gens, ils ont des vies de sommeil complètement débalancées. Ils dorment trop dans le jour, ils arrivent le soir, ils ne s'endorment plus. Alors, ils ont des vies de sommeil débalancées. Souvent aussi, ça a comme conséquence avec dans les relations sociales que tu ne parles plus aux autres, ou presque plus. Et rendu que quelqu'un va vouloir te parler, mais ça te dérange, tu ne veux même pas parler à personne. Puis, autre conséquence que ça a pour le chrétien, qui est très grave, c'est d'arrêter d'aller au culte, puis arrêter de prier, puis d'arrêter de lire ta Bible. demanderais ça à ceux qui ont traversé des périodes de grande dépression, qui sont des chrétiens. Souvent, ces trois choses-là arrêtent. Ils vont pour le culte, prient plus, lisent plus la Bible. C'est pas rien pour améliorer ta situation. Sixièmement, on voit que il suffit pas d'identifier tes faux modèles de pensée, de comprendre les impacts qu'ils peuvent avoir sur nous, mais cela devient souvent un point tournant. Alors, quand tu as fait cet examen-là, ça devient un point tournant. Mais pour compléter le processus, parce qu'il y a un processus étant 10 points, les actions doivent être entreprises pour changer ces choses-là. Donc, quand ça a l'air de rien, là, mais j'ai un livre quelqu'un ici dans l'Assemblée a acheté récemment. Je lui ai dit, excuse-moi, comme elle a un pouce et demi d'épais, là. Et c'est un manuel qui a pour but d'aller dans les détails de ces choses-là. On ne fait pas ça tout seul. On fait ça avec des gens qui n'ont déjà vu d'autres, qui n'ont déjà vu d'autres, puis qui n'ont déjà vu d'autres, puis qui voient comme il y a des patterns là-dedans qui ont que tu as besoin de les comprendre, tu as besoin de te faire aider. Donc, à partir du moment où tu as fait les exercices des cinq choses qu'on vient de mentionner, il faut que tu passes à l'action. À partir d'aujourd'hui, change quoi, là? Alors, tu regardes tes raisons. Alors, pourquoi les raisons pour lesquelles tu crois que tu es dans là-dedans? Pourquoi je crois que les pensées qui sont listées au point 3, là, quand ta vie de pensée, et il faut que tu regardes quelles sont les preuves qui supportent ta conclusion. Quand tu dis que tu as telle et telle affaire, comme ça, qu'est-ce que tu penses de toi-même, qu'est-ce que tu penses des autres, qu'est-ce que tu penses du présent, qu'est-ce que tu penses du futur, qu'est-ce que tu penses de l'ensemble de ta vie, il faut que là, tu sois capable de dire des raisons qui tiennent debout. Quand tu dis personne qui m'aime, il faut que tu sois capable de te démontrer. Sinon, il faut qu'à quelque part, tu reviennes un petit peu sur ta manière de penser. Ouais, mais il m'aime, mais je le sens pas. Ça peut arriver que tu ne le sentes pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Alors, on a aussi le septième point, c'est vraiment ton besoin de changer. Les anglophones appellent ça un challenge. Un challenge, ça veut dire un défi. Tu te donnes un défi de t'en sortir. Il faut que tu listes tes raisons et les preuves que je ne pense pas de façon correcte. Disons, à partir du moment que tu as regardé tes raisons de tes fausses manières de penser, il faut qu'à quelque part, tu reconnaisses qu'il y a un besoin dans ta personne, dans ton comportement de tous les jours, qu'il faut qu'il change. Ça se fait, ça, bien entendu, ça ne se fera pas du jour au lendemain, là. Ça va se faire graduellement. Alors, qu'est-ce qu'Azaph fait dans le psaume? Ça serait, si on peut aller plus en profondeur dans le psaume, c'est intéressant. Il dit, par exemple, Azaph, Dieu a agi avec son cher peuple de façon similaire dans le passé. Donc, autrement dit, il examine la manière de se comporter de Dieu avec son peuple dans le passé. Et il reconnaît dans les versets 11 à 20 que Dieu a exercé dans le passé sa providence envers son peuple et envers les individus qui composent son peuple. Et il dit aussi le verset 19, Dieu conduit parfois son peuple à travers les grandes eaux. Quand on dit travers les grandes eaux, ça ne veut pas dire qu'il traverse un fleuve. Les grandes eaux, c'est une image symbolique qui parle que quand tu vis ces choses-là, tu te sens comme si tu étais justement dans un courant d'eau très puissant. Alors quelque part. Et Asaph aussi, il exerce sa fonction, Dieu exerce sa fonction de berger pour son peuple à travers le désert. Le désert, qu'est-ce que c'est pour nous? Tu sais, le peuple d'Israël a traversé le désert. Mais nous, pour nous, les chrétiens, c'est quoi un désert? C'est quand tu traverses des périodes où que c'est extrêmement difficile à vivre. Tu te sens seul, tu te sens abandonné de Dieu et plein d'autres choses de ce style-là. Mais, à quelque part, il faut savoir comment Dieu, dans le passé, même à travers ceux qui traversaient le désert, Dieu faisait son travail de berger. Puis dans le verset 20, il finit par dire « Dieu conduira son peuple à la terre promise. » Ça ne veut pas dire qu'à cause que tu traverses une période, une épreuve qui dure depuis 2, 3, ça peut être même plus long que ça, mais en général, c'est à peu près ça, 3 ans, 4 ans. Dieu va quand même te conduire, si tu es un chrétien, il va te conduire à la terre promise quand même. C'est drôle pareil, hein, parce que quand on lit ces livres-là, souvent ils vont nous dire que les meilleures personnes pour aider d'autres dépressifs après qu'ils s'en sont sortis, c'est des déprimés eux-mêmes. Parce que la personne qui fait une dépression, puis qu'elle sait que toi tu en as fait une, puis que tu t'en es sorti, elle va t'écouter 10 fois plus qu'un psychiatre ou un pasteur. Parce qu'elle, elle, elle connaît ça, elle l'a vécu. Alors souvent, le Seigneur peut avoir amené ça dans ta vie pour que tu sois une personne qui soit miséricordieuse, qui soit capable d'aider les autres autour de toi quand ils... Alors le 8e point, il faut vraiment que tu arrives à une conclusion équilibrée et qui est vraie. Alors, comme Asaph, il dit, même si je me sens rejeté et oublié de Dieu, il me conduit à travers le désert vers la terre promise. Contrairement à la parole de Dieu et à ses œuvres, mes sentiments sont inexacts et non fiables. Alors, quelque part, il faut que tu réapprennes à connaître que tes feelings, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont vraies. C'est un feeling. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu vis pour le vrai. Et la 9e chose, tes nouveaux sentiments. Alors là, il faut que... Il conseille que tu regardes l'ensemble des mots que tu as utilisés pour parler de ta situation, en un mot, on disait, là. Et il essaye de regarder, disons qu'il y a plusieurs mots qui décrivent ta situation. Essaye de décrire en parenthèse le pourcentage que tu te sens. Par exemple, lui, il disait troublé, inconsolable, submergé, coupé de Dieu, pessimiste, insécure et apeuré. Il pouvait vivre tout ça en même temps. Mais à quelque part, il essaye de te faire, dans tous ces sentiments-là qu'on nomme, là, que tu as nommés, que tu as identifiés, lequel qui serait le plus important? C'est-tu le trouble? C'est-tu la colère? C'est-tu le découragement? C'est-tu... Alors, c'est important d'essayer d'établir comme un genre de degré d'importance des mots que tu as utilisés pour identifier ces affaires-là. Et la dernière chose que tu as à faire, c'est de faire un plan. Comment je mettrai ma conclusion équilibrée en pratique? Alors, Asaph, lui, il a décidé qu'il penserait davantage à Dieu qu'à lui-même. Il réfléchit davantage aux actions de Dieu dans le passé. Ça, c'est une consolation. Quand quelqu'un se met à lire les Écritures et à regarder les épreuves que les autres ont vécues, que le peuple de Dieu a vécues, et que Dieu les a fait sortir, ça devient pour toi un encouragement. Et aussi le fait de croire davantage à la puissance et à la grâce divine, et au fait qu'il ne change pas. Dieu ne change pas. Il t'aime autant qu'avant. Il va te suivre jusqu'au bout, même si tu vis une chose que toi, tu as de la difficulté à comprendre. C'est une des choses qu'on reconnaît quand on est en contact avec des gens qui sont dépressifs. Souvent, ils ont vraiment besoin de se rappeler la grâce de Dieu. Et de faire aussi davantage confiance à Dieu. Ce n'est pas facile quand tu es dans les circonstances. Mais ta conclusion, c'est vraiment de t'en aller dans cette direction-là, réapprendre à faire confiance à Dieu. Même si, il y a des fois, moi, les mots que j'entends, c'est que je ne comprends rien. Je ne comprends pas pourquoi Dieu m'envoie ça. Je ne comprends pas pourquoi Dieu nous envoie ça. Mais à quelque part, quand on est un chrétien, on sait que Dieu a un but dans toute chose qu'il fait, dont un but dans ce que tu es en train de vivre. Et aussi, ça fait partie de ton cheminement, ça va t'emmener à quelque part. Le troisième point, on va arrêter là pour cette semaine, on terminera la semaine prochaine. Parce qu'on est en 2 heures, on est à 28 minutes.